Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une des dernières recommandations dans le bunker, puisque le format s'achève bientôt, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Hubert Tardy-Joubert, diplomate, doctorant en philosophie aussi, passé notamment par les cabinets du ministère de la Défense et des Affaires étrangères, désormais en poste en Éthiopie. Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Alexandre, merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous.
Et vous souhaitez donc nous parler d'un film qui est un très grand classique. Je ne sais pas si on peut qualifier ça vraiment de classique du film de guerre, mais en tout cas c'est un immense film, qui est L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, film de 1969 adapté du roman de Joseph Kessel, avec notamment à l'affiche Lino Ventura, Paul Meurice, Simone Signoret, Jean-Pierre Kessel entre autres. Alors, c'est évidemment un film sur la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être plutôt sur les résistants, parce qu'on en reparlera peut-être, mais de fait, on voit assez peu ce qu'ils font, comment ils sont organisés, etc. Par contre, c'est un film qui plonge avec, disons, la manière qui est assez propre au cinéma de Melville, c'est-à-dire avec une lenteur et en même temps une intensité qui sont assez rares, dans les personnages, dans leurs attitudes et dans leur rapport à la mort et au danger et au fait d'être pris potentiellement par les Allemands. Donc dites-nous peut-être pour commencer ce qui vous intéresse dans ce film et pourquoi vous pensez qui dit quelque chose quand même de la guerre, même s'il la représente en fait directement au fond assez peu.
Oui, c'est vrai, c'est le paradoxe un peu d'avoir choisi ce film, parce que c'est un film sur la guerre, donc sur un type de guerre particulier. L'action clandestine, l'action des résistants français, de la résistance de l'intérieur pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui peint une guerre sans la guerre, ou en tout cas sans les grandes scènes classiques qu'on peut attendre d'un film de guerre, une scène de bataille, les combattants en uniforme, des réflexions tactiques ou stratégiques. Donc c'est quelque chose de très différent, mais qui est d'autant plus intéressant. Il y a un vrai intérêt historique, puisqu'après tout, en France, cette action clandestine-là, elle tient quand même un petit peu du mythe national, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Il y a un intérêt esthétique aussi, parce que le film de Melville, en fait, s'appuie beaucoup plus pour peindre cette guerre-là sur des ressources qui sont celles du cinéma policier, ou peut-être du cinéma d'espionnage, beaucoup plus que du cinéma de guerre, on aura l'occasion d'en reparler. Et puisque ce que vous dites est exact, hein, il y a toute cette profondeur sur les personnages de ces différents résistants. Et là, je dirais qu'il y a un intérêt quasiment philosophique, puisque c'est un film qui nous plonge dans la cruauté de cette guerre, de cette action clandestine. Et par cruauté, il faut entendre justement tous les dilemmes moraux de ce type de combat, hein, puisque l'un des propos principaux du film, à mon sens, enfin, c'est comme ça qui m'intéresse en tout cas en tant que philosophe, c'est que les catégories morales, les jugements moraux, volent en éclats.
Ouais, on peut simplement, puisque vous y avez fait mention, dire que c'est pas totalement... Enfin, je veux dire, c'est un film qui sort en 1969, qui reprend un roman donc publié par Joseph Kessel alors qu'il était à Londres, donc en 1943, mais qui est... Du coup, le film sort en fait à la fin de la décennie gaulliste, au pouvoir. C'est un film qui sort aussi avant le grand livre de Robert Paxton, qui est donc La France de Vichy, de 1972, où il va s'agir d'entamer un peu ce mythe de la France qui tout entière a résisté. Et du coup, c'est un film qui s'inscrit assez bien dans cette période, effectivement, à laquelle vous faisiez référence, de sorte de mythification de la France et du peuple français contre les Allemands, qui est représenté alors un peu en filigrane, mais qui est représenté par un certain nombre de scènes, notamment une scène avec Serge Reggiani dans un très beau rôle bien que court de Barbier. Mais du coup, c'est aussi un moment disons, de l'écriture de l'histoire de France et de la manière dont la France se pensait elle-même pendant la guerre, notamment sous la présidence du général de Gaulle.
Oui, absolument. C'est un film d'ailleurs qui a été assez mal reçu par la critique hein, à l'époque. Il sort en 69, donc qui est une année importante puisque c'est l'année où le général de Gaulle quitte le pouvoir. Et donc le film à l'époque est assez mal reçu par la critique, donc, notamment par les cahiers du cinéma qui le voient comme une sorte d'éloge gaulliste pur et parfait, ce qu'il n'est pas totalement d'ailleurs, hein, de l'aveu même de Melville. Et puis c'est un film qui sort 2 ans avant le Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls, qui est aussi un moment charnière dans la peinture, dans la constitution du mémoire national, qui montre bien toutes les attitudes très différentes que les Français ont pu avoir pendant la guerre. Mais c'est un film qui de fait a un propos politique qui est extrêmement restreint, parce que dans le film, les résistants, joués par Lino Ventura ou par Paul Meurice, ne parlent quasiment pas, voire pas du tout, des raisons pour lesquelles ils se battent. Donc le propos du film est pas tellement politique de ce point de vue-là. Il y a vraiment une vraie attention à la méthode des résistants, la manière dont ils travaillent, les problèmes, les dilemmes moraux qu'ils peuvent avoir aussi, mais relativement peu de dimension politique, si ce n'est, il est vrai, une séquence qui a lieu à Londres, où on voit donc le général de Gaulle remettre la croix de l'ordre de la libération à l'un des personnages principaux. Mais je trouve que c'est
L'un des personnages principaux, qui soit dit en passant, n'est pas tout à fait anodin, puisque c'est le personnage joué par Paul Meurice, donc qui est Luc Jardy dans le film, qui est une transposition extrêmement transparente du philosophe Jean Cavaillès, puisque on voit à plusieurs reprises les bouquins que Luc Jardy est censé avoir publiés et qui sont en fait des livres de Jean Cavaillès. Donc c'est pourquoi je dis ça, parce que effectivement c'est ce que vous signalez, on a assez peu leur motivation, mais effectivement ils sont représentés comme des espèces de pas de purs esprits, mais de purs ressorts de la volonté. Ils étaient comme des espèces de moines soldats qui sont entièrement consumés par une cause, qui ne savent faire que ça. À une exception près, il y a un seul personnage qui a un autre intérêt dans la vie, qui est le personnage de Simone Signoret, de Mathilde, et c'est ça qui va provoquer sa chute. Mais tous les autres sont vraiment entièrement absorbés par une seule tâche, qui est la tâche de la résistance et de la lutte.
Oui, absolument. Alors peut-être un mot quand même sur Jean Cavaillès, qui est pas forcément très connu, mais dont il faut parler. Donc effectivement, c'est lui qui inspire donc le personnage de Luc Jardy, qui est joué par Paul Meurice. Et donc Cavaillès, c'est quelqu'un d'important. Hein. C'est un très grand philosophe des sciences, de la logique, très technique, vraiment à la pointe du savoir de son temps. Dans les années 30, il était aussi un homme d'action, il était lieutenant de corps franc pendant la campagne de 39-40, et dès l'armistice, il s'engage dans la résistance, et pas tellement comme un intellectuel, je dirais, puisque les tâches auxquelles il se consacre très vite, et qui mèneront à sa mort d'ailleurs, sont vraiment des tâches d'action directe, de sabotage, de renseignement, etc. Donc c'est une figure extrêmement importante dans l'histoire de la philosophie française, extrêmement importante aussi dans le lien qu'il fait entre l'homme d'idée et l'homme d'action. Et donc c'est ce personnage qu'on voit joué par Paul Meurice et qui est très très émouvant, aussi parce que le surnom qui lui est donné dans le film, c'est Saint-Luc, et c'est pourtant lui qui, à un certain moment du film, prend une décision extrême consistant à décider de l'exécution d'une autre résistante. Mais effectivement, les personnages ont très peu d'identité, on sait très peu d'eux, et c'est une manière, je pense, pour Melville de peindre les contraintes de cette action clandestine-là, son aspect cruel, parce que on voit bien les liens entre ces différents résistants sont très particuliers. Il y a peu de place pour les émotions, peu de place en un sens aussi pour les liens amicaux.
Le symbole absolu de ça, c'est justement avec ce personnage de Saint-Luc, donc le personnage de Luc Jardy, et le personnage de Jean-Pierre, incarné par Jean-Pierre Cassel, qui sont frères dans la vraie vie et qui se retrouvent de part et d'autre d'une barque en train d'embarquer dans un sous-marin anglais. Enfin, l'un mène l'autre vers un sous-marin anglais, ils ne se reconnaissent pas dans la barque. Ce qui est un peu un symbole, enfin une représentation des éloignements et disons du gouffre qui se crée du fait qu'on se trouve des identités qui n'ont plus rien à voir une fois qu'on s'engage dans la lutte.
Absolument. Ça, c'est le principe de l'action clandestine, du cloisonnement, mais toujours valable aujourd'hui en un sens, hein, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est la métaphore de la fraternité, du lien entre ces deux frères. et plus généralement de la fraternité dans la résistance, parce que au fond, le film s'ouvre sur une scène d'exécution, celle d'un résistant par d'autres résistants. Elle se clôt aussi sur une autre scène d'exécution de même nature. Donc au fond, ce qu'essaye de montrer Melville, c'est ce que Sartre appelait la fraternité terreur. Il y a un lien de fraternité dans l'action entre ces différents personnages qui cherchent parfois à se sauver les uns les autres quand ils sont prisonniers, mais il y a aussi un lien de terreur, c'est que chaque résistant est une potentielle menace pour l'autre résistant s'il est arrêté, s'il parle. Et là, l'alternative, elle est tragique. C'est l'alternative entre le suicide, pour ceux qui le peuvent, et éventuellement l'exécution par d'autres résistants pour faire cesser cette menace. Donc je pense que c'est ce côté insoutenable sur le plan moral que Melville réussit parfaitement à traiter, hein. Il le traite aussi sur le plan esthétique. Enfin,
ouais, mais alors c'est là que c'est intéressant, c'est que si on reprend, enfin même la genèse du film, pas au niveau de la production, mais c'est un film adapté d'un roman de résistant, donc d'un roman de Joseph Kessel, par un résistant qui est lui-même Jean-Pierre Melville, dont on peut rappeler qu'il s'appelle Jean-Pierre Grimbach originellement. Melville, c'est son nom de résistant qu'il a gardé ensuite à la Libération. Du coup, c'est intéressant le choix qui est fait, c'est-à-dire de presque pas figurer ce qu'ils font dans la résistance. Ça l'intéresse assez peu. On voit quelques évasions, quelques transferts de pilotes de la RAF tombés, mais bon, c'est quasiment rien, quoi. Mais ce qui l'intéresse de toute évidence, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est les atmosphères à couper au couteau, mais qui sont assez propres au cinéma de Melville, qu'on peut retrouver dans Samouraï, dans Le Cercle Rouge, dans d'autres de ses films. Mais en tout cas, c'est pas l'action, c'est pas la dimension tactique, c'est ce que c'est d'être dans la résistance par quelqu'un qui a été dans la résistance, en fait.
Oui, absolument. Effectivement, et c'est tout l'intérêt justement de cette intrigue extrêmement resserrée avec peu de personnages sur une durée de temps très brève, hein, entre octobre 42 et février 43. Et le génie Melville, c'est de rendre cette ambiance-là qui est oppressante, il faut le dire. Enfin, je veux dire, on serre les dents pendant tout le film, il y a peu de moments de respiration. Et puis, il faut s'intéresser, ouais, à la matérialité et au style de Melville. Il a un travail extraordinaire sur les couleurs, une atmosphère hivernale de bleu, de gris. Enfin, pour tout dire, tout le film est teinté d'une atmosphère funéraire, hein, le funèbre. Hein, le film se veut un éloge à ces individus qui, au fond, marchent vers la mort. Enfin, le symbole de ça, c'est cette scène où Philippe Gerbier, joué par Lino Ventura, est enchaîné avec d'autres résistants condamnés à mort et marche vers son lieu d'exécution. Donc, effectivement, tout le film est une méditation là-dessus, sur ce qu'en termes d'existence, ça peut signifier que de se retrouver coupé des siens et voué à une tâche qui a une issue probable, qui est de disparaître.
Ouais, on peut dire aussi. Alors c'est aussi la beauté de Melville, c'est un rythme qui est assez indescriptible, qui est assez incomparable. C'est lent, c'est d'une lenteur, mais c'est d'une lenteur qui renvoie aussi vers une temporalité différente. C'est-à-dire, je trouve que ça fait énormément de bien, moi, de voir un film aussi lent et en même temps aussi plein aujourd'hui. Enfin, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit est quand même très très rythmé, même en ces périodes de confinement. Là, ça nous place dans une époque où la temporalité était différente, où ça, on attend des journées entières, où les heures sont pleines, où tout est lent, où tout prend du temps. Et c'est aussi ça. Enfin, c'est une sorte de dépaysement extrêmement intéressant, spécialement par rapport à ce qui peut sortir aujourd'hui. Et disons par rapport aux visions plus héroïsées, plus vitaminées du film de guerre et du film de résistance qu'on a pu trouver après.
Oui, absolument. Il y a un travail sur la temporalité. Là aussi, dans le dispositif matériel de Melville, on entend très souvent des bruits d'horloge dans un très grand silence qui montre cette existence en sursis. Il y a un art du silence, hein, dans ce film. Hein. Beaucoup de moments où les résistants, l'un face à l'autre, ne se parlent pas ou laissent des silences pesants entre eux. Donc je pense que c'est une manière aussi pour Melville de travailler cette idée du cloisonnement, de la difficulté ou de l'impossibilité à tout dire. C'est un film qui est très dur, qui est très cruel, mais qui montre cette violence sans voyeurisme. Vous avez des scènes qui sont absolument terribles, hein, de torture ou d'exécution. mais qui sont...
Et qu'on voit pas, et ça c'est très intéressant, c'est qu'on voit pas les scènes de torture, par contre on voit les corps. Ouais. On voit les corps meurtris et bleuis, là il y a le travail sur les couleurs des blessures, est très étonnant. Et on voit des corps qui changent de couleur et qui changent de forme, mais par contre il n'y a jamais le voyeurisme, mais il n'y a jamais l'attention à... l'action violente qu'il y a entre les deux. Il y a juste des présences terrifiantes dont on sait très bien ce qu'elles vont faire. Il y a le résultat, mais il n'y a pas, ce qui n'est pas nécessaire, quoi.
Absolument, ouais. Bon, ça tient probablement aussi à l'époque. Mon film n'aurait probablement pas la guerre ou ce genre de violence de la même manière aujourd'hui. Peut-être qu'on serait plus soucieux d'une dimension de réalisme, au risque d'ailleurs du voyeurisme. Donc il y a de la retenue, il y a une forme de pudeur de la part de Melville. Qui tient aussi probablement, je dirais, à son inscription dans cette époque et à la nécessaire retenue de quelqu'un qui a pu voir certains de ses camarades disparaître.
Très bien, donc on recommande évidemment vivement de voir ou revoir L'Armée des Ombres, qui est disponible sur la plupart des plateformes de VOD, qui passait à la télé il n'y a pas très longtemps, mais qui est disponible par exemple sur la Cinéthèque. Je signale au passage que l'ami André Loez a lui aussi consacré un épisode de son podcast Parole d'Histoire au film, or plus historicisant puisque c'était avec l'historien de la résistance Guillaume Pollack, mais que je recommande chaudement. Nous on a plus insisté sur le film et sur, disons, la dimension esthétique, est-ce que la manière dont le film transfigure, disons, la résistance. Merci beaucoup Hubert Tardy-Joubert.
Merci.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.